Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans le studio de Radio Foot International sur RFI pour vous parler comme chaque jour de football. Et aujourd'hui, je commence par vous présenter un invité de marque dans cette émission. Un homme qui voit la vie en bleu. Comme le clame le titre de son livre, un homme dont la mémoire se confond avec celle de l'équipe de France et dont le bandeau rouge sur l'ouvrage promet 50 ans de secrets dans les coulisses de cette équipe de France. Voici l'homme aux 337 sélections. Bonjour Philippe Tournon.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté d'être dans notre émission aujourd'hui. Alors vous êtes, retraité de cette équipe de France.
Oui.
Vous êtes ancien chef de presse de l'équipe nationale et vous avez aussi été le chef de la presse pour la Fédération française. Oui. Vous êtes aussi un ancien collègue. Vous êtes passé par le journal L'Équipe.
16 ans et demi, L'Équipe, France Football, oui.
Avec vous, c'est un travail en équipe. Hein. Vous m'obligez à faire 5 fois la répétition. Alors, vous nous raconterez dans cette émission, si ce n'est des secrets, peut-être maintenant éventés, puisque le livre est sorti il y a quelques semaines, mais en tout cas des anecdotes drôles ou surprenantes. Alors, on ne sera pas au coin du feu, on sera au coin de notre studio et de ce micro. Nous évoquerons aujourd'hui aussi les Bleus, vos Bleus, champions du monde. Mission remplie avec 2 victoires en 3 matchs d'éliminatoires. Qu'y a-t-il de positif dans ce marathon des éliminatoires? Mention spéciale de Radio Foot et d'autres confrères à Antoine Griezmann, l'homme qui renaît toujours sous les couleurs nationales. Des Allemands à la Macédoine. Et voilà une défaite de la Mannschaft qui déchaîne les confrères et les unes outre-Rhin. Tous coupables, tous fatigués, leur répond Joachim Löw. Ne faut-il plus craindre nos futurs adversaires à l'Euro? David Lortolari, vous avez la réponse?
Ah, la vérité du jour n'est pas celle du lendemain, Annie. Ah. Bonjour à tous.
Très bon dicton. C'est pas un dicton de Rémi, mais ça pourrait l'être. On lui demandera. Bonjour David Lortolari et bonjour Bruno Constant.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Merci d'être là. Et puis, aujourd'hui, on a un autre invité de marque dans ce studio. C'est Alejandro Valente. Bonjour le préfet.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Alejandro, vieil ami de Philippe Tournon, c'est ça?
Vieille connaissance. Voilà.
Vieille
oui.
connaissance.
Oui. Ça fait des années qu'on sillonne un petit peu la route de l'équipe de France, un petit peu.
Ça voilà, a commencé par un franco-argentin dans
voilà,
l'équipe de France.
David Trezeguet, quand il démarrait, effectivement, il fallait l'aider parce qu'il ne parlait pas français au tout début. Alors, voilà.
Vous faisiez Philippe, le traducteur.
Philippe m'avait utilisé un peu comme traducteur.
Utilisé. Bon, vous nous avez beaucoup aidé ensuite à RFI, Philippe Tournon. Laurent Salerno est à la réalisation. David Finzel m'a aidé à préparer cette émission. Radio Foot, c'est parti.
C'est vraiment intéressant ce soir.
Quart d'heure radio, le centre de radio.
Oh, la tête d'Antoine Griezmann sur une offrande d'Adrien Rabiot. Quelle merveille de ballon du milieu de terrain de la Juve. Que dire de cette tête d'Antoine Griezmann qui inscrit son 35e but en bleu.
Nouveau coup de grisou, le deuxième de cette période internationale, le 35e de l'attaquant des Bleus et des Blaugrana. Antoine Griezmann et les siens ont finalement plutôt bien fini ce début des éliminatoires pour Qatar 2022. 3 matchs de victoire et 1 nul. 7 points, c'est le minimum qu'on attendait des champions du monde en titre, Bruno Constant?
Minimum, on espérait les 9 points, forcément. Il y a le nul face à l'Ukraine qui restait un petit peu en travers de la gorge, mais faut quand même remettre dans le contexte d'une situation qui est très compliquée avec l'accumulation des matchs, l'absence de préparation estivale. On est dans la période de mars-avril où il y a les Coupes d'Europe qui deviennent très importantes avec les joueurs qui ont forcément dans un coin de leur tête ces compétitions. Donc on a peut-être envie de gérer un petit peu, de pas se blesser. Donc au vu du contexte, voilà, on peut pas leur demander beaucoup plus, en tout cas dans le contenu. Et résultat, voilà, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont fait le carton plein. Hein. Dans les grandes nations, il n'y a que l'Angleterre et l'Italie.
Mm-hmm. Et l'Arménie.
Mais dans les grandes nations, il n'y en a pas.
Oui, l'Arménie, mais oui.
Et toutes les autres, l'Espagne, le Portugal, ils ont toutes perdu des points. L'Allemagne, on va en parler, donc c'est compliqué.
C'est très dur d'aligner, de faire le carton plein dans cette période-là. Et Bruno a bien situé le problème. Moi, je l'étendrai encore un petit peu, de la place des sélections nationales dans un univers de football où les clubs sont de plus en plus puissants, de plus en plus exigeants. C'est eux qui payent les joueurs. Et il y a tout un mécanisme pour les sélectionneurs de repositionnement du logiciel équipe nationale à mettre en route en 2-3 jours. Ils sont réunis le lundi, ils vont jouer le jeudi ou le vendredi. Et là, il faut que le joueur, il se mette dans la peau du...
D'un bleu.
Et puis, on peut même ajouter les voyages. Cette fois, il y avait voyages au Kazakhstan, 5-6 heures de vol.
C'est pas simple.
Et d'ailleurs, on avait l'impression qu'ils n'ont pas eu beaucoup de temps pour s'entraîner, ces bleus.
Non, mais il n'y a pas d'entraînement. C'est pas la vie d'une équipe nationale en stage. C'est soins, récupération, voyage, hôtel, stade, veille de match, conférence de presse, match, on rentre, on prend l'avion. Il n'y a pas d'entraînement, il n'y a pas de travail.
Même pas pour les pénaltys.
Ça, c'est selon. Mais même comme c'est pas au programme voulu par le sélectionneur, il y a beaucoup de joueurs qui, après l'entraînement, ils s'amusent entre eux, ils se lancent des challenges et les pénaltys donc sont travaillés. À l'insu de leur plein gré, sont travaillés.
David Lortolari, c'est bleu. Est-ce que pour vous aussi, ils ont fait le service minimum, c'est-à-dire ramener 7 points et être premier de leur groupe? Le groupe D.
Oui, et on peut pas être dépaysé. Alors, bien sûr, il y a eu ce démarrage contre l'Ukraine avec un but malheureux. On peut peut-être le qualifier comme ça, le but encaissé, le ballon dévié par Kimpembe. Hein. Pour le reste, 1-0, 2-0, ça dépaysera pas sans doute Philippe Tournon, parce que ça fait un moment qu'on connaît ça aussi, même s'il y a eu d'autres contextes. Mais ne pas encaisser de but, les gardiens, les sélectionneurs, les joueurs défensifs ont toujours l'habitude de dire que c'est important. Avoir les solutions individuelles qui vous permettent aussi de débloquer ces situations un peu pénibles, en particulier avec Griezmann en ce moment, parce que peut-être que pour d'autres c'est moins évident, comme Mbappé. Bon, sont quand même des bons points que le sélectionneur aura volontiers mis de son côté.
Et puis les résultats du groupe font que malgré ce semblant de faux pas contre l'Ukraine pour démarrer, on est déjà très en avance sur tous les autres. Oui. Ça, c'est très positif.
Exactement, il y a 4 points hein, de différence.
3 ou 4,
l'équipe de France est première avec 7 points et l'Ukraine est deuxième avec 3 points.
Ouais, c'est énorme.
Ouais. Alejandro, quel point positif vous retenez, vous, de cette confrontation, enfin, pour l'ensemble de l'équipe de France?
Bah, moi, je verrais plutôt des points positifs à l'individuel. Hein. Certains joueurs ont été au niveau. Je pense à Hugo Lloris qui sauve un peu l'équipe de France hier en première mi-temps. J'ai l'impression, c'est le hasard fait que c'est les Barcelonais qui ont été mis en valeur, mais Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann ont réussi plutôt une bonne semaine. Peut-être étaient-ils davantage libérés dans la mesure où Barcelone n'est pas concerné par la semaine des Ligues des Champions qui approche, ouais, alors que d'autres joueurs comme Mbappé, par exemple, pouvaient être davantage
perturbés
ou prudents à l'approche de ce gros rendez-vous. En tout cas, ils ont joué peut-être davantage à l'économie. Mais je pense que, effectivement, c'est une séquence qui est conforme à ce qu'on peut attendre de cette équipe de France aujourd'hui. C'est une séquence plutôt correcte.
Philippe Tournon, qu'est-ce que vous aimeriez que la presse en retienne si vous étiez encore aux rênes de la communication de l'équipe de France?
Le côté positif qu'on vient d'évoquer, les points engrangés, les adversaires qui s'entre-déchirent et qui marquent pas beaucoup de points, il n'y a pas mieux pour lancer une phase de qualification. Il faut quand même se rappeler que notre lot habituel en qualification de Coupe du Monde, c'est le plus souvent les barrages. Bon, on les a évités la dernière fois, mais c'était l'exception.
On se souvient de 2013, contre l'Ukraine, justement.
Voilà, et bien d'autres qu'on a vécu aussi. Donc,
d'autres, on va y venir.
Didier Deschamps ne peut tirer qu'un bilan très positif. Lui, qui dit le résultat d'abord, la façon après. Bon, là, effectivement, la façon, on peut en discuter à perte de vue. Pourquoi le Mbappé du PSG est si brillant et suit l'équipe de France cette fois-là est aussi...
Transparent,
oui, on peut...
Presque.
Enfin bon, ça démarre bien et je pense que ça va continuer comme ça.
C'est, pour des champions du monde, c'est obligé, je dirais, de retourner remettre leur titre en jeu.
Oui, l'époque où on était qualifié d'office est terminée. On en a profité la dernière fois en 2002. Pour pas en faire un très bon usage, parce qu'on n'a pas gagné un match. On arrive là-bas avec les meilleurs buteurs de la France, du championnat d'Angleterre, du championnat d'Italie. Pas une victoire, pas un but, et on rentre à la maison. Vous voyez comme quoi, il suffit pas d'avoir des attaquants pour marquer des buts.
Il faut bien mener la campagne. Mention spéciale, vous êtes d'accord avec Antoine Griezmann, Bruno Constant. On a l'impression qu'il est toujours au rendez-vous des Bleus, quelle que soit sa période bonne ou mauvaise en club, que ce soit avec le FC Barcelone ou avant avec l'Atlético. Grisou, ce sont 80 89 sélections, 35 buts, 21 passes décisives. Il est impliqué dans 56 des buts des Bleus de ces derniers temps. Il a eu 30 ans le 21 mars. Est-il au sommet de son art en bleu en ce moment ?
En bleu.
En bleu.
Non, mais c'est, je crois, j'ai l'impression que c'est surtout une bouffée d'oxygène pour lui de venir en bleu parce que c'est un peu sa maison, il a ses repères, il s'y sent bien, il a un rôle qui est taillé pour lui par Didier Deschamps dans un rôle un peu libre derrière l'attaquant. C'est son meilleur poste. Et puis c'est, pour moi, c'est un cadre indéboulonnable et c'est un des joueurs majeurs de cette équipe. Aussi bien à l'Euro que lors du Mondial, il était exceptionnel quand les moments importants arrivaient. Et voilà, c'est, J'ai toujours eu du mal pourquoi on voulait contester ce joueur, parce qu'il y avait des résultats, des performances certes en club qui n'étaient pas à la hauteur de son niveau,
mais
le club,
bleu,
le club et la sélection,
temps, hein.
C'est deux choses tellement différentes que voilà, c'est un joueur majeur et moi je suis content pour lui qu'il retrouve déjà de la joie. Voilà, de la joie qu'il n'a pas toujours avec son club du FC Barcelone.
Il l'a un petit peu plus peut-être en ce moment, Alejandro.
Oui,
dur, hein.
Il a des hauts et des bas, mais disons qu'aujourd'hui, il n'est pas pas aussi contesté qu'il pouvait l'être au début. Cela dit, il n'est pas non plus au niveau qu'on attendait.
Ça ne se passe pas aussi bien qu'il l'aurait imaginé.
C'est un très vaste débat, le rendement du joueur en club et en sélection. Mbappé,
Pogba.
Griezmann, Pogba, Benzema, sans revenir sur son affaire, il fait une carrière fabuleuse au Real Madrid. Et en équipe de France, il n'a jamais été très convaincant. Il est resté, je crois, 1200 minutes sans marquer un but. Et à l'époque où Didier Deschamps, après qu'on l'a accusé de l'avoir assassiné, le maintenait contre vents et marées. C'est ça. Il y a des mécanismes psychologiques, les affinités qu'on peut avoir en club et pas en sélection ou inversement. C'est un mécanisme assez complexe. Oui.
Bruno parlait un petit peu sa maison. Je l'aurais exprimé de la façon suivante. On a la sensation qu'il fait partie de ces joueurs. Tous devraient l'être sans doute, mais lui fait partie de ces joueurs qui sont au service d'eux. Alors, est-ce que c'est au service du drapeau ? Est-ce que c'est au service de l'équipe ? Est-ce que c'est au service de... Mais en tout cas, c'est l'impression que ça donne.
Il y a une action qui l'illustre bien. Et à un moment donné, il est sur le côté droit. C'est un corner jouant de temps en coup franc. La passe est mal donnée, je crois que c'est Lemar. Il perd le ballon, Griezmann est à la lutte. Il fait une course de 80 mètres pour aller tacler à l'autre bout du terrain pour aider son équipe. Lui, l'attaquant.
C'est plutôt sain comme attitude.
Ouais. Il y a des joueurs qu'on peut taxer parfois d'oublier les replis défensifs. Pour des attaquants, ce n'est pas lui qui va courir ses reproches.
Mais même à Barcelone, on lui a toujours reconnu cette qualité.
C'est l'école Simeone.
Il ne baisse jamais le bras, qu'il est toujours au taquet, qu'il défend énormément, qu'il se dépense sans compter. Ça, on le lui a toujours reconnu, même à Barcelone.
Voilà pour ce qui est des Bleus d'hier soir. À la mi-mai, Didier Deschamps annoncera sa liste des convoqués pour l'Euro. Donc c'était, on en avait parlé dans Radio Foot cette semaine, les dernières chances. Compétition donc qui se déroulera du 11 juin au 11 juillet, en principe dans 12 villes, mais en temps de pandémie. Il n'y a plus de principe et on verra ce que nous dira l'UEFA d'ici peu. En Europe, les Bleus sont en tout cas les grands favoris encore de la compétition. Est-ce que vous avez l'impression, Philippe Tournon, qu'on se retrouve comme en 2000, c'est-à-dire 98, la France vient de gagner la Coupe du Monde et en 2000, il y a l'Euro et toute cette équipe de Zidane, de Henry, de Deschamps et tout se retrouve parmi les favoris d'une compétition qu'elle va finir par remporter. Est-ce que vous sentez la même... atmosphère.
C'est difficile à sentir, mais le rapprochement, effectivement, est assez tentant.
Deschamps doit y penser, lui.
Bien sûr. Quand l'équipe de France 98 avait été championne du monde, Roger Lemaire, qui avait pris la succession d'Aimé Jacquet, avait dit « Je vais me contenter d'accompagner cette équipe ». Donc là, on est un peu dans la même problématique. On a des cadres bien établis, le leader technique Griezmann dont on a parlé, une poussée des jeunes énormes, comme j'en ai jamais connu, Dembélé, Coman, Martial et bien d'autres.
Mbappé.
Donc c'est une équipe qui n'appelle pas beaucoup de retouches. Donc je pense que Didier va essayer de surfer sur cette dynamique qui existe toujours. On le voit bien, même
qui
quand les matchs sont pas bons. Il y a un mental et il y a un investissement pour le maillot bleu que Didier...
Ça vient de la défaite en finale en France en 2016 face au Portugal.
Oh, avec un coach comme Didier, je pense qu'il n'y a pas besoin. Mais ça les a nourris, ça leur a appris beaucoup de choses, certainement.
Ils en parlent souvent.
Et si d'aventure ils se retrouvent, je pense que s'ils vont en finale, ils ne la perdront pas. Ils ont été trop malheureux de perdre une finale. Peut-être qu'il peut leur arriver des pépins avant, mais je pense que si par bonheur on les voit en finale, là, ils vont être comme des diables et on ne les tiendra pas.
Alors un euro où nous retrouverons sur la route nos meilleurs ennemis en football, l'équipe d'Allemagne qui n'était pas à la joie hier soir. Alors ceux qui chantaient et s'extasiaient de leur fait d'armes hier soir dans leur vestiaire, le fait d'armes d'avoir battu chez elle à Duisbourg la Mannschaft, au prestigieux palmarès, je vous le rappelle, hein, 4 Coupes du Monde, eh bien eux c'était les modestes joueurs de la Macédoine du Nord, 65e au classement de la FIFA. Ouais. Vous n'auriez pas parié sur ce résultat, David Lortolari?
Non, mais non. Vu ce qui s'est passé sur le terrain pendant une heure et demie, on y est venu de façon
logique,
inéluctable.
Ouais. Alors justement, pourtant, l'équipe d'Allemagne avait accumulé 17 victoires pour ce qui est de matchs éliminatoires. Elle venait de remporter ces deux matchs contre la Roumanie et ensuite contre l'Islande, hein, 1-0, 3-0. Et puis, patatras, alors là, on s'est souvenu tout d'un coup d'un certain 6-0,
oui,
à l'automne dernier.
En Espagne.
Que s'est-il passé hier soir? Eh bien, Joachim Löw le reconnaît, ces jeunes n'y étaient pas. Et il leur trouve des excuses.
La déception est énorme, bien sûr. Notre objectif était de prendre 9 points en 3 matchs que nous avons lâchés alors que nous les tenions. Nous ne pouvons nous en prendre qu'à nous-mêmes. Il est difficile de faire une analyse à chaud, mais nous étions fatigués, me semble-t-il. Nous avons manqué de fraîcheur. Nous avons été lents en attaque, mais même quand nous avons été rapides, nous n'avons pas su trouver des solutions pour poser des problèmes à notre adversaire.
Alors après l'Ukraine, on a entendu Didier Deschamps parler aussi de fatigue des joueurs. Beaucoup de sélectionneurs en parlent et même nous, on comprend l'année atypique que doivent vivre ces joueurs. Mais c'est quand même la presse allemande qui se déchaîne aujourd'hui. On a des titres « Quelle honte, honte historique, l'Allemagne se ridiculise, réveil douloureux ». Pas la peine d'y aller, dit même Bild, c'est-à-dire pas la peine d'aller à l'Euro.
Ah oui, qui souhaite même que le sélectionneur s'en aille tout de suite.
Mmh, ouais. Alors racontez-nous d'abord, est-ce que c'est une telle catastrophe? Bon, ils sont deuxièmes de leur groupe ex aequo avec justement ces Macédoniens, mais devant est l'Arménie, mais l'Allemagne est-elle en danger véritablement ou...
Bon, Annie, le sélectionneur s'est un peu piégé lui-même, me semble-t-il. On parlait tout à l'heure, et Alejandro m'a donné un argument important pour ce résultat-là. 3 matchs en une semaine et le sélectionneur qui a souhaité trouver de la stabilité après avoir fait des dizaines et des dizaines d'essais ces dernières années, il a aligné pour ainsi dire la même équipe 3 fois d'affilée. Et les joueurs comme Kimmich, comme Gundogan, comme Goretzka et quelques autres vont avoir un match important contre le Paris Saint-Germain dans quelques jours. Il y a un choc énorme contre le deuxième du classement en Allemagne ce samedi soir pour le Bayern en déplacement à Leipzig. Je ne suis pas en train d'excuser les joueurs, mais on a trouvé les joueurs que je viens de citer plus fatigués que jamais hier soir. Du moins, c'est l'impression qu'ils ont donnée. Kimmich était un peu à bout d'énergie. Gundogan n'avait plus le dynamisme dont il fait preuve dernièrement, y compris avec son club de Manchester City. Goretzka n'a pas récupéré autant de ballons que d'habitude. Et en face, il y avait une équipe... Pardon pour le slogan, mais qui jouait le match un peu de sa vie.
Mmh.
Et du coup, on se fait un peu bousculer. On est coupable d'erreurs beaucoup plus fréquentes que d'habitude. Et le sélectionneur aussi, Annie, fait des erreurs. Il convoque par exemple le jeune Wirtz, qui fait de superbes choses avec Leverkusen cette saison, qui aurait pu jouer, avoir beaucoup de temps de jeu avec les moins de 21. Il le convoque pour pas l'aligner une seule minute sur 3 matchs. La presse se demande un peu si le sélectionneur est pas en train de perdre sa lucidité au fil du temps. Et pour ainsi dire, je vais résumer la chose de la façon suivante. Après 15 ans de Joachim Löw en Allemagne, les gens, et je parle de façon générale exprès volontairement, en ont marre.
Oui, et ça date quand même de 2018.
Oui.
Malheureusement, depuis 2018, ils traînent ça comme un boulet, cette mauvaise presse, finalement. Et il est tout de suite le bouc émissaire des problèmes de l'équipe d'Allemagne.
Oui, la fédération a voulu croire, et je trouvais que c'était plutôt sain, qu'on pouvait continuer, qu'on pouvait se renouveler avec le même sélectionneur, qu'il pouvait insuffler un sang
nouveau.
Il a
rajeuni.
Il a écarté des cadres pour lesquels maintenant il va avoir énormément de mal à continuer de dire non.
Et vous croyez qu'il va les rappeler?
Si vous avez besoin dans le secteur offensif d'un joueur qui rameute derrière lui l'ensemble des jeunes qui sont là, qui sont parfois un peu perdus, Timo Werner, un peu perdu hier. Il a eu une action, une occasion énorme, et il met le ballon je sais pas où. Thomas Müller serait nécessaire dans cette perspective-là, le besoin d'avoir quelqu'un qui, à chaque action, recadre un peu ses coéquipiers, etc. Et c'est pareil en défense avec Mats Hummels. Ces deux-là, ils risquent d'avoir beaucoup de mal, Joachim Löw, face à la pression générale en Allemagne, de ne pas les rappeler. Pour Boateng, c'est un peu plus compliqué parce que Jérôme Boateng ne peut pas disputer, peut-être aujourd'hui,
tous les matchs
consécutivement. Mais la question va aussi se poser pour lui. Donc là, il y a un vrai équilibre à trouver. Danger, peut-être pas, mais en tout cas, signal d'alarme important, ça, oui.
Donc, si on vous entend bien, Joachim Löw continue. Va continuer.
Alors, il y a deux solutions immédiates. Il y a deux solutions immédiates.
Il reste où il part.
Non, mais le sélectionneur des moins de 21 ans, Stefan Kunst, est immédiatement disponible dès que le tournoi des moins de 21 sera disponible. Et c'est le successeur le plus probable pour Joachim Löw.
Ça serait pas Hans Flick ?
Flick est retenu par le Bayern, pour le moment, en tout cas. Et l'autre solution, c'est Ralf Rangnick, parce qu'il est immédiatement disponible, parce qu'il sait tout, parce que c'est le professeur, parce que c'est celui qui pourrait peut-être avoir une légitimité totale sur le plan managérial et tactique. Je suis d'accord avec Alejandro. Attention, il peut encore se passer des choses. Mais ce serait insensé, Annie, maintenant, aujourd'hui, maintenant, là, tout de suite, de remplacer le sélectionneur alors qu'on lui a fait confiance après 2018 pour mener l'équipe jusqu'en 2022, théoriquement.
La question se pose, là, vraiment ?
La question est posée par les médias, en tout cas.
Oui, les médias. Les médias ne peuvent pas la poser. Mais... c'est le lot de tous les sélectionneurs. Après un truc de ce genre-là, est-il encore légitime ? Peut-il encore redresser ?
Le problème, c'est que ça répond à la claque de mois de novembre, je crois, contre l'Espagne.
Oui,
6-0.
Ah oui. Ouais. Quelque chose de qui n'est pas arrivé depuis des décennies, pour ne pas dire jamais.
C'est plus qu'un accident ce qui s'est passé face à la Macédoine. C'est la confirmation qu'il y a quelque chose qui est cassé entre le sélectionneur et son groupe, on a l'impression. Et là, malheureusement, c'est compliqué. Après, ça ne joue à rien. Hein, parce que si Timo Werner, à la 89e, à un partout, il met son but, que tous les attaquants devraient mettre seuls face au but vide, on n'a pas le même discours après.
Juste une dernière question. Est-ce qu'il faut avoir peur de cette Allemagne qui sera dans notre groupe, le groupe de dingue qu'a la France à l'Euro avec le Portugal et la Hongrie ?
J'ai une réponse à vous donner.
Dites-nous.
À part l'arrière-gauche, qui théoriquement devrait être l'un des deux joueurs de Leipzig, l'un des deux défenseurs, Klostermann, Alstenberg. Bon, il est pas là, mais il devrait être là. À part celui-là, les 10 autres titulaires du 11 de départ de Löw sont tous qualifiés en quart de finale de Ligue des Champions. Tous, sans exception. Donc individuellement, l'équipe, évidemment, est compétitive et elle nécessite un rafraîchissement. Mais avec les joueurs que vous avez, on va plus les citer, vous les connaissez tous. Vous devez faire une équipe compétitive.
Bruno ?
Non, sur le papier, l'Allemagne, c'est costaud. Hein. Quand on regarde le milieu de terrain...
Reste notre meilleur ennemi.
Kimmich, Goretzka, c'est magnifique. Le trio devant, c'est magnifique. Après, moi, je pense que l'Euro, il va y avoir de l'imprévu parce que ça va jouer sur la fraîcheur physique. On voit les joueurs, ils sont carbonisés. On voit les blessures. Lewandowski s'est blessé. Verratti s'est blessé pendant les éliminatoires. Et c'est pour ça qu'on en revient au bleu. Fragile. Peut-être la gestion de certains joueurs, c'est compliqué.
Oui, que les listes auront peut-être allongées. Alejandro.
Je pense que prendre l'Allemagne à la légère, ce serait une erreur fatale. Donc, je ne pense pas que Didier Deschamps puisse faire une erreur de ce type, Philippe.
Philippe Tournon, l'Allemagne, c'est l'épouvantail de l'équipe de France.
Non, ce n'est pas l'épouvantail.
Plus depuis Marseille 2016.
On a inversé, oui, depuis Marseille 2016.
Parce qu'il y a eu un temps, c'était avec le Brésil, on avait aussi ça.
82.
Même 2014 aussi.
Oui, exactement. Bien sûr, l'Allemagne, ce serait une erreur monumentale de la sous-estimer. Mais comme dit Bruno, c'est un euro, je pense qu'il va avoir beaucoup de surprises.
Mais là, tout le monde sera un peu à la même surprise, enseigne. Voilà pour ce qui était de l'actualité. Et maintenant, place à notre invité de marque.
J'ai à mes côtés un journaliste, un confrère de la presse écrite, Philippe Tournon, notre confrère de l'équipe, à qui j'aimerais bien poser quelques questions. L'équipe de France ne semble pas tenir tellement le jeu au milieu du terrain et les Irlandais lui posent de sérieux problèmes.
Merci Philippe, moi je l'ai connu depuis 2010, donc on a passé beaucoup de temps ensemble, il a été parfois dur.
Juste.
Bon, j'étais souvent en retard, donc... Il était là pour me tirer les oreilles, pour que vous soyez heureux. Il a été une part importante dans le projet de l'équipe de France durant toutes ces années. Et bravo Philippe. Bravo pour,
c'est bien, on va s'arrêter là.
Pour ta carrière.
La dernière question.
En espérant qu'elle se finisse en apothéose dimanche.
Blaise Matuidi évoque un dimanche d'apothéose. Et bien, ce dimanche, c'était le 15 juillet 2018, Moscou, stade Loujniki. Et une fin de carrière en apothéose aussi pour vous, Philippe Tournon.
Vous ne pouvez pas rêver mieux. Je ne pense pas que les joueurs
deuxième étoile
aient gagné pour spécialement pour moi. Mais bon, c'est vrai que deuxième étoile et on s'en va, c'est formidable.
Ouais. J'étais
un grand, grand privilégié de pouvoir, pendant 337 matchs et des milliers d'entraînements, voir à quelques mètres tous ces joueurs qui, moi qui n'ai jamais su taper dans un ballon, je m'émerveillais tous les jours à 70 ans passés de voir... ce qu'on pouvait faire avec un ballon.
Mais justement, Philippe Tournon, vous êtes né à Montauban. En fait, vous auriez pu tomber en Ovalie.
Oui,
et
non, c'était le hasard de la guerre. La famille Tournon s'est rapatriée sur Paris dès 1945.
Dès qu'elle a pu. Oui. Vous avez fait vos classes à Boulogne-Billancourt.
Oui.
Et justement, c'est là que vous tombez dans le football en achetant une revue.
Oui, c'était très bizarre.
Qui s'appelle France Football.
Mon père avait joué un peu au foot, au patronat Joliet. Mais dans la famille, personne n'avait fait de sport vraiment. Et un jour, j'étais à l'école Notre-Dame de Boulogne, une institution où on commençait ça en maternelle, on finissait en terminale. C'était... et un jour, un interne, parce qu'il y avait un interne, il me dit « Tu peux m'acheter France Football ». Donc, je ne connaissais même pas le nom de cet hebdomadaire. Et il me dit « Je crois que c'est 50 centimes à l'époque, si ma mémoire est bonne ». Il me demande 50 centimes, je lui achète France Football et... chemin faisant et à la maison pendant après le déjeuner je lis je sais pas ça m'accroche.
Alors les héros de
ça
l'époque
m'intéresse.
Voilà, c'était ouais. Fontaine,
Coppa, Piantoni,
Pelé,
Vincent,
Léviachine, Di Stéfano, la grande époque de Reims aussi.
Oui, j'avais ma carte de supporter du stade de Reims.
Ah oui, vous étiez
le seul club dont j'ai eu la carte de supporter, ouais.
Et c'est ce qui vous dirige vers le journalisme sportif ?
Oui, certainement, comme j'avais compris très vite que c'est pas balle au pied que je pourrais avoir des satisfactions, même minimes. Et j'ai eu le culot de dire à mon père, j'avais 15 ans, « Papa, je vais être journaliste à l'équipe ». J'aurais dit « Je veux être pape ou président de la République », ça aurait été à peu près la même chose. Et puis les circonstances ont fait que, bon, à l'époque, la voix du paternel, c'était quand même important. Donc j'ai fait semblant de faire du droit. Je me suis inscrit à la fac d'Assas et puis... très vite, j'ai bifurqué vers le journalisme. Je n'avais aucune relation, j'avais aucune idée de ce que c'était. Et à l'approche de ma libération du service militaire en 65, j'ai pris ma plus belle plume et j'ai écrit à tous les responsables de rubriques sportives de Paris. À l'époque, il y en avait beaucoup plus. En tirant la sonnette, bonjour monsieur, voilà, j'ai pas de diplôme, j'ai rien, mais j'ai envie d'être journaliste. Il n'y a pas un petit boulot, même pas payé, etc. Et j'ai eu la bonne fortune qu'à France Football, Jacques Ferrand, le patron,
vous a donné votre chance.
Il cherchait à l'époque un pigiste pour s'occuper des statistiques de division 2, de tout petit truc, quoi. Et la mayonnaise a bien pris. Et je me suis retrouvé à faire 17 ans à l'équipe, de stagiaire jusqu'à chef de la rubrique football, rédacteur en chef adjoint. Puis après, j'ai bifurqué vers la fédération.
Vers la fédération, vous devenez chef de presse de l'équipe de France. C'était une époque où il y avait très peu de journalistes qui suivaient l'équipe de France.
Ça commençait à venir parce que la Coupe du Monde en Espagne, c'est le jeu bascule après la Coupe du Monde en Espagne. Là, il y avait déjà pas mal de journalistes qui suivaient l'équipe de France. Non, j'ai surtout connu l'époque début des années 70 où, quand Georges Boulogne faisait les stages à Saint-Malo, on était 6 ou 7. Il n'y avait pas de chef de presse pour te dire « fais pas ci, fais pas ça, t'as pas le droit de ci, t'as pas le droit de ça ». Le photographe de l'équipe, Dédé Lecoq, à la fin de l'entraînement, il faisait signe à Révelli, Loubet, Beretta, « allez, je vous emmène ». Il les mettait dans sa voiture, il les montait dans Saint-Malo, intramuros, il les mettait sur les canons de surcouf pour faire la photo de une du lendemain. Ah, c'est une époque invraisemblable aujourd'hui, mais...
Ça a évolué.
On parle des fois d'évolution, moi je parle de révolution.
Ou d'involution.
Oui, non, peut-être pas. J'ai surtout senti quand Domenech est arrivé en 2004, conformément à son droit le plus strict, il a voulu changer tout le staff. C'est vrai que ça ronronnait un peu. Il m'a dit « Bon, on change tout le monde. » Très bien. Donc, je suis resté encore 2 ans comme directeur du service de presse. En 2006, je suis parti. Et en 2010, après les événements d'Afrique du Sud, de triste mémoire, Laurent Blanc me demande si je veux bien revenir. Et là, alors entre-temps, il y avait eu l'apparition, bon, Internet, bien sûr, existait déjà, mais hein, il y a eu les réseaux sociaux, qui, hein, l'information en continu, avec deux chaînes, il y avait iTélé à l'époque, devenu CNews, et BFM, oui, qui se tiraient la bourre, mais d'une façon invraisemblable, pour avoir une info 30 secondes avant les autres, ils auraient tué père et mère. Et un journaliste venait me voir et me disait, la première question en conférence de presse, tu me donnes la parole à moi, pas à l'autre. Ouais, il y avait une vraie rivalité et ça mettait une pression médiatique sur l'équipe de France que j'avais bien sûr jamais connue et qui ne s'est pas démentie depuis. Maintenant, une conférence de presse en Coupe du Monde, vous en avez tous fait, c'est 100, 150 journalistes, voilà, donc il faut gérer tout ça en étant bien conscient que la communication, les joueurs se la font, ou ceux qui s'occupent de leur communication la font beaucoup sur les réseaux sociaux.
Justement, on va écouter un moment dans un vestiaire et on est à un temps plus ancien.
Allez Louis,
allez mon petit bonhomme, ouais. Oui, mon petit bonhomme, bravo! Bravo!
En demi-finale, c'est le grand de
Alors, au commentaire, les inoubliables Thierry Roland et Jean-Michel Larquet, on
c'est
est au Mexique.
Voilà.
Exactement.
Quart de finale, Brésil, ouais.
Et la France bat le Brésil, Michel Platini qui marque ce pénalty. Là, on avait l'impression.
Non, c'est Luis Fernandez.
Pardon, Luis Fernandez.
Le dernier décisif, alors que Michel loupe le sien.
Voilà, loupe le sien, mais Luis Fernandez le marque et c'est la libération dans
et
les esprits.
Et on retrouve l'Allemagne, comme par hasard, en demi-finale.
Exactement.
Et comme on avait fait, nous, notre finale déjà contre le Brésil.
Ouais. On les retrouve en demi-finale. Mais là, on a la caméra est dans le vestiaire. On voit un vestiaire très simple,
C'était Michel Drey. Michel Drey qui avait obtenu ce que Stéphane Meunier a obtenu après dans le cadre du contrat avec Canal+. Mais maintenant, toutes les équipes sont filmées de l'intérieur et sont prêtes à produire des films sur
Mais
la
c'est
victoire,
moins spontané.
Non, parce que c'est des, généralement, enfin, je parle de ceux que j'ai connus en équipe de France, c'est des garçons qui savent se faire oublier. En plus, maintenant, Adolphe Audrey, il avait une caméra qui devait peser 4 kilos. Mmh. Aujourd'hui, ils ont des tout petits engins extrêmement maniables. Ils ont des consignes et ils les respectent à la perfection. Ils se font invisibles. Donc, ils sont fondus dans le décor et personne ne perd son naturel parce qu'il y a une caméra. Ce qui n'est pas le cas quand on vient dans un studio, etc. Tandis que là, le caméraman embarqué, comme on dit, fait tellement partie de la vie de l'équipe de France. Il mange avec nous, il nous suit partout, il est dans le bus avec nous, dans l'avion avec nous. Donc, c'est pas un problème. Et c'est au contraire dans ces scènes de vestiaire, je trouve qu'on trouve beaucoup de spontanéité, de naturel. Les joueurs font pas ça ou ci ou ça parce qu'il y a une caméra ou ils vont pas se freiner parce qu'il y a la caméra.
Alejandro ?
On a beau connaître sur le bout des doigts l'histoire de l'équipe de France, on est quand même épaté quand on lit votre livre, Philippe, de voir que la même équipe pouvait être, il y a 50 ans, une équipe presque des 3e division, enfin, avec une structure extrêmement peu professionnelle, capable de se faire éliminer éliminatoire après éliminatoire, de faire des traversées des déserts des années durant, de rater les Coupes du Monde, les Championnats d'Europe, etc. Et que la même équipe soit aujourd'hui une des plus grosses machines au monde, favorite à chaque fois, dès qu'une Coupe du Monde ou un Championnat d'Europe arrive. Comment se fait-il qu'en si peu de temps, ça a pu changer autant. C'est la formation qui a fait...
Oui, c'était l'élément déclencheur. On a longtemps été les parents pauvres de l'Europe. On partait du principe qu'un bon amateur pouvait passer pro à 19 ou 20 ans et ça allait continuer. Évidemment, c'était totalement faux. Et avec un président de fédération qui s'appelait Fernand Sastre et un directeur technique, Georges Boulogne, on a mis en place cette formation, puis la pré-formation, et qui fait qu'on est certainement aujourd'hui... j'aime pas le mot, mais que le pays qui produit le plus d'éléments de qualité.
On est le centre de formation de l'Europe.
Pour meilleure preuve, c'est que les Anglais, les Espagnols, les Italiens viennent nous les prendre, des fois 16 ans, 17 ans, ce qui est d'ailleurs beaucoup trop tôt, mais bon, c'est un autre débat. Donc il y a une profanilisation, t'as raison, Alejandro, il y a eu 30 ans, là, de 80 aux années de 2010, on a rattrapé tout notre retard, et aujourd'hui, on peut prétendre rester valablement dans le top 3 ou 4 européens. Autant en équipe de club, on essaye de faire croire qu'on est dans le top 5, alors qu'il y a 4 gros championnats, Italie, Allemagne, Espagne, Angleterre. Et l'équipe de France a du mérite à ne pas se laisser décrocher. Mais on n'est quand même pas, au point de vue affluence dans les stades, marketing, pouvoir, on n'est pas niveau quand même.
David, alors toi, tu aurais une question ?
Oui, peut-être formuler la même question qu'Alejandro, mais différemment. Philippe, vous avez connu du romantisme, avec Rocheteau, avec Giresse, avec d'autres, et un pragmatisme extrême, peut-être avec Didier Deschamps, ou Makelele, ou d'autres. Dans le contexte d'aujourd'hui, où on est dans un spectacle, où dans le contexte aussi de pandémie d'aujourd'hui, où les gens, les amateurs de foot ont besoin peut-être de se divertir. Je ne sais pas si ce sont des gros mots que je dis là, Annie. Moi, il y a quelque chose qui me titille un petit peu. Didier Deschamps le dit, vous l'avez dit aujourd'hui, Philippe aussi, dans notre émission. Dans le haut niveau, le résultat avant tout. Est-ce que... vous n'avez pas quand même une tendresse pour, je ne sais pas, des beaux perdants ou une forme de romantisme dans le football ?
Ben oui, ayant été gamin supporter du Stade de Reims et de ce football champagne, j'ai forcément dans un coin de ma tête toujours une nostalgie. Et je veux bien dire que l'équipe de Michel Platini, la génération Platini, ouais, nous offrait des matchs au point de vue contenu technique, au point de vue action qui est susceptible de vous lever du fauteuil. Il y avait certainement plus de répondants. Mais j'ai appris... fréquenter beaucoup d'entraîneurs de très haut niveau et les supporters diront pas le contraire. Il n'y a pas de palmarès du beau jeu. Il y a un palmarès, t'es champion du monde ou t'es champion d'Europe. Maintenant, si la qualité du jeu était donnée par surcroît, bravo, tant mieux. Et il faut se garder.
Donc, on doit être capable d'attendre pendant 7 matchs qui peuvent être pénibles, laborieux pour avoir la joie de la victoire à la fin. Peut-être.
Tu peux présenter ça comme ça. Moi, je vois pas comme ça. Mais si ça te permet de gagner, c'est pas grave d'avoir été pas beau, pas bon, pas joli et d'avoir essuyé les critiques. Mais je connais pas d'équipe ou de sélectionneur qui dise à son équipe allez, aujourd'hui, on rentre, on se fait plaisir, on joue bien, le résultat, ça passe. C'est pas vrai.
Non, mais on va changer la question de, ouais, de David. On va prendre 3 équipes gagnantes, 84 euros,
voilà,
98, d'accord, 2018, pour laquelle vous avez le plus d'affection.
Ben genre, je veux pas trahir mais c'est ce que je viens de dire, c'est forcément celle de 98. Parce que gagner une Coupe du Monde à la maison, c'est énorme. Celle de 84 vient après, parce que l'équipe de France est née en 1904, on arrive en 1984, on n'a rien gagné, pas un titre. Donc là, quand même, la génération Platini, avec de surcroît un jeu assez plaisant, c'est une date importante. Mais la compétition suprême, la compétition majeure, c'est la Coupe du Monde. Tu la joues chez toi, tu la gagnes. Donc, je vais rester fidèle à mes convictions. Le palmarès d'abord, le résultat d'abord.
Philippe, tournons, vous qui étiez chargé des relations avec la presse. Aimé Jacquet et ses relations tendues, distendues, voire rompues avec le journal L'Équipe. Mmh. Vous n'avez jamais réussi, vous en plus, qui veniez du journal L'Équipe, à influer. Est-ce que ça, c'est un regret que vous pouvez avoir ?
Bien sûr, c'est une petite mortification personnelle que la rivalité entre Aimé Jacquet et mon ancien journal ait pris ses proportions et surtout duré aussi longtemps.
Et dure encore ?
Oui, elle dure encore, parce qu'Aimé a été, et sa famille ont été tellement meurtries de certaines choses. Mais là, je prends soin toujours de préciser que l'équipe, en leader d'opinion, il donne le tempo. Et les attaques les plus basses, les dessins les plus infâmes, ne sont pas venus de l'équipe. Ils sont venus de ces publications hebdomadaires ou mensuelles qui parlent de football une fois tous les quatre ans quand c'est dans l'air du temps et qui, là, se sont permis des choses tout à fait déplorables. L'équipe a pensé, et c'était son droit, je défendrai toujours la liberté des journalistes de dire ce qu'ils veulent, ils ont pensé que après le désastre de 93, Aimé Jacquet, le second Gérard Houllier, prend l'équipe de France, ne va pas à la Coupe du Monde 94. Et Aimé Jacquet, le premier, pensait qu'il était intérimaire. Le problème, c'est que non seulement l'intérim y dure, mais qu'il reste 30 matchs sans en perdre un seul. On va à l'Euro 96, au fond du trou où on était, c'est une performance, et on va en demi-finale, battue au tir au but. Et là, l'équipe qui avait dit, non sans raison, que ça posait question, que le jeu était pas ci, le jeu était pas ça, il continue de dire à un euro indigent, c'est pas Jacques qui, etc. Et ça dure jusqu'au bout. Alors même que tout le monde dans le football, Platini, Giroud, tous les autres disent, mais laissez-le bosser. Voilà. Donc il y a eu un acharnement de l'équipe, des titres ironiques, et on va jouer à 13, etc. Et je me rappelle encore la veille du premier match, on fait un match amical en Finlande. Ah, t'as raison, c'était pas excitant, mais on le gagne 1-0, et quand on sait combien un dernier match de préparation avant une Coupe du Monde, c'est important, l'objectif était atteint, on avait fait le plein de confiance. Mm-hmm. Eh ben non, dans l'équipe, l'ami Agnès qui dit, nous voilà au pied de l'Everest et on est en espadrille.
Voilà. C'est vrai qu'il y a un décalage qui s'est créé. Moi, j'ai un souvenir, la une de l'équipe, au lendemain du match de Séville, 82, le titre était fabuleux, si je ne me trompe pas. Alors que l'équipe de France avait été éliminée. On était dans un rapport un peu charnel, un peu positif.
Ouais, une petite précision, Bruno, c'est que ce titre, il a été fait par Édouard Sedler à Paris, alors qu'il fallait boucler et qu'on ne connaissait pas le résultat. Donc il fallait un titre qui convienne dans tous les cas de figure. France gagnante, France éliminée. Et ce match avait charrié tellement d'émotions, de renversement jusqu'au moment où théâtral, il a fallu envoyer le titre à l'atelier pour la composition, que ce fabuleux convenait parfaitement, toute situation envisageable. Il était tellement bien que même une fois le résultat connu, ils l'ont gardé. Parce que c'était fabuleux.
Mais les rapports ont changé entre les médias et l'équipe de France. Tu expliquais par rapport au fait qu'il y a de plus en plus de médias. Aujourd'hui, ça a basculé à partir de 98 avec l'organisation de la Coupe du Monde. Et aujourd'hui, on est beaucoup plus dans l'analyse, le fait de décortiquer la moindre chose sur l'équipe de France.
C'est sûr qu'on est
Était suiveurs, on se mettait devant la télé, on rêvait un peu avec l'équipe de France. Aujourd'hui, on la décortique en permanence.
Oui, mais les journalistes n'ont jamais été des supporters. On ne leur demande pas d'ailleurs de l'être. Mais c'est vrai que moi, je me souviens quand j'étais à l'équipe, il y avait un spécialiste du jeu et des joueurs, comme on dit aujourd'hui, c'était Jean-Philippe Rétaker, un garçon de très grande qualité. Et dans nos papiers, on ne nous interdisait rien, mais on s'aventurait rarement sur le domaine technique. Aujourd'hui, c'est les présentations, les comptes rendus, les débats d'après-match, c'est le tableau noir, c'est les pions et ça, et tu joues 4-2-3-1, 4-3-2-1, le losange, le triangle et compagnie, quoi. Je pense qu'il y a c'est pas inintéressant. Les débats sont salutaires. Ça fait avancer. Mais j'en reviens toujours à ma marotte et mes convictions acquises au fil des années. Respectons d'abord le résultat. Puis après, convenons qu'il y a peut-être moyen de faire autrement, de faire mieux, peut-être.
Mais c'est vrai qu'il y a un décalage entre, d'un côté, l'équipe de France, son sélectionneur, qui veulent gagner, qui veulent des résultats.
Et de l'autre,
Ah bon. Et de l'autre côté, les téléspectateurs, qui, eux, sont devant leur télé ou au stade et ils veulent vibrer.
Particulièrement
en ce moment. Et de plus en plus en ce moment, effectivement.
Non, mais l'équipe qui perd, les spectateurs viendront pas. Oui, mais il y a un décalage, à mon sens, il est pas vrai. Parce que l'équipe qui perd, même si elle joue bien, elle va pas tirer les spectateurs.
Un petit crochet dans votre livre, c'est par l'Afrique. Alejandro Valente l'a clairement noté. Et on va écouter ce moment de juin 2003 où on se retrouve avec une équipe de France sous le choc. C'est le décès de Marc Vivien-Fauré.
Le drame s'est joué dans le rond-point central. À la 72e minute du match, Marc Vivien-Fauré s'écroule seul. Terrassé sans raison apparente. Ses yeux sont révulsés, ses mâchoires serrées. Transporté au bloc médical du stade Gerland, le joueur décède après 45 minutes de réanimation cardiaque.
Coupé, qui a connu Faux et à Lyon, était inconsolable hier soir, comme ses coéquipiers. pense à tout sauf au football, quoi. On pense à sa famille, on pense à ses proches, et puis au personnage qu'il était. C'était un mec extraordinaire, et c'était le grand frère dans un groupe, c'était celui qui montrait la voie, donc c'est dur d'apprendre à décider, surtout d'un rock comme lui, quoi.
C'était la Coupe des Confédérations en France, Alejandro. Absolument. Demi-finale, juste avant une finale, France-Cameroun.
France-Cameroun, champion d'Europe contre champion d'Afrique. Ça devait être une fête en France. Et finalement, la fête a été malheureusement transformée en drame.
C'est un épisode certainement parmi les plus poignants qui m'ait été donné de vivre quand on arrive au Stade de France.
Là, c'est la communication de crise, comme on dit.
Mais c'est fait dans le respect et quasiment dans le silence. On arrive au Stade de France, on est dans le vestiaire, on apprend ce drame. Jacques Santini qui entraînait Lyon, et il réunit tous les Lyonnais, il pleure comme des gosses, et on rentre sur le terrain, Grégory Coupé, il pleure encore. Et comme dit Alejandro, la finale, c'était même pas un match, c'était un moment de communion autour de la
Marc
mémoire de Marco.
Ancien Lyonnais, champion de France, le Camerounais.
La médaille pour recevoir les médailles, les deux équipes sont montées ensemble sur le podium, et le tour d'honneur, les deux équipes l'ont fait ensemble avec le portrait de Marc-Vivien Foy.
Marc-Vivien Foy qui porte le nom du prix du meilleur footballeur africain des Ligues 1 que RFI remet chaque année, évidemment.
Pour terminer, il nous reste malheureusement plus beaucoup de temps. Philippe, vous avez, en Afrique toujours, eu la chance, le privilège de rencontrer Nelson Mandela.
Ah oui.
Avec l'équipe de France. Racontez-nous ce 7 octobre 2000. Il aimait le foot, il y jouait quand il était en prison, Nelson Mandela.
Oui, j'ai lu ça, ouais, mais j'ai pas...
Non, mais nous aussi, on a vu des images et des photos sur
tout. On avait conclu un match amical...
Dans un pays de rugby, c'est ça que je voulais dire.
En Afrique du Sud, et bien évidemment, on a tout mis en œuvre dès le début pour essayer d'avoir une entrevue avec Mandela. Mais quand on est parti de France, on pensait que l'entrevue n'aurait pas lieu. Sa santé était déjà un petit peu chancelante. Et le premier soir, à l'hôtel, on nous a dit non, ce ne sera pas faisable. Et le lendemain, au miracle, et tout le monde était très ému, on nous dit vous allez pouvoir aller à la résidence. Et on nous a fait rentrer, on a attendu sagement, aligné, et on a vu cette silhouette reconnaissable entre toutes. Avec un
qui acceptait de recevoir les champions du monde et champions d'Europe.
Ça n'a pas été très long, on est tous passés, on lui a serré la main. Et j'ai dû lui dire dans un anglais approximatif combien j'admirais... l'homme et son action politique, et on est reparti. Mais c'est un des plus belles rencontres que j'ai faites. Ça n'a pas duré 5 secondes, mais devant un personnage comme ça, on se sent petit, petit, petit.
Quel dernier souvenir vous emmenez de cette équipe de France? Est-ce qu'il y en a un plus que d'autres au bout de 50 ans aux côtés de l'équipe de France et de 337 sélections?
Non, comme je l'ai dit, c'est le privilège que j'ai eu de faire ça pendant 30 ans et 337 matchs et d'avoir eu la bonne fortune. L'équipe de France n'avait rien gagné avant que j'arrive. Je m'en vais, elle a 7 titres, j'étais dans le staff pour les 7 titres. Et comme je dis en plaisantant, on ne me prenait pas au sérieux. Maintenant, reste à faire la preuve que l'équipe de France peut gagner sans Philippe Tournant.
Voilà, non. Ça vient,
c'était,
ça vient.
C'était une plaisanterie, notez-le.
Donc ça sera peut-être bientôt.
Mais j'espère que ça va être très, très rapidement.
Vous allez continuer à regarder tous les matchs de l'équipe de France?
Ah, je n'en ai pas loupé, bien sûr.
Ouais.
Ah oui, non. Ouais, ça, le championnat, je ne suis pas un fanatique. Il y a longtemps que je ne vais plus dans les stades. L'évolution du tout ce qui entoure le football de haut niveau est devenu assez lourd, assez pesant. Ça se retrouve jusque dans les stades, donc j'y vais plus beaucoup. Mais l'équipe de France, non seulement je regarde à la télé, mais avant la pandémie, j'ai pas loupé un match de l'équipe de France en France depuis mon départ en 2018.
Et ôtez-nous d'un doute, parce que vous racontez dans votre livre que le personnage sérieux, grand chemin, disait Matuidi, que vous étiez un soir de 1998, court après un certain Ronaldo pour obtenir un autographe.
Ah oui.
Il vous a bien accueilli?
Oui, il était très triste, il pleurait un peu. C'était pendant que le Brésil montait recevoir la médaille des battus. Moi, pendant que l'équipe de France recevait sa médaille, j'étais à côté de Ronaldo. J'ai déchiré une feuille du carnet d'Aimé Jacquet et j'ai fait signer Ronaldo.
Eh ben, c'était un beau geste vers les vaincus. Merci beaucoup, Philippe Tournon.
C'était un plaisir
d'avoir
Merci
participé
de votre invitation.
À Radio Merci. Foot International. On se retrouve demain pour le Café des Sports. Merci à tous.